Voici une question qu'on devrait tous poser. Qu'est-ce que Dieu pense de ceux qui aiment qu'on leur donne un titre important et être reconnu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'ai vraiment de bonnes questions pour vous aujourd'hui. Il y en a sûrement quelques-unes que vous avez déjà posées. Les voici. Est-ce que les couples mariés seront encore mari et femme au ciel? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que nous ressusciterons un jour? Nos êtres chers qui sont décédés nous attendent-ils tous dans le ciel? Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tous les pécheurs seront condamnés un jour? Est-ce que Christ condamne l'orgueil de ceux qui aiment qu'on leur donne des titres, qui aiment être reconnus? Que faut-il faire pour être grand, selon Dieu? Les Saintes Écritures vont répondre à toutes ces questions avec exactitude aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main et il est prêt à nous donner un enseignement bien enrichissant. Demandons à Dieu qu'il nous aide à comprendre tout ce qu'il va nous dévoiler. Prions. Oh oui, Seigneur, enseigne-nous encore aujourd'hui. On est à tes pieds et on veut comprendre tout ce que tu veux nous dire pour l'appliquer dans nos vies. Aide-nous à bien saisir le sens, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Maintenant, nous nous approchons de la crucifixion de Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Il est venu majestueusement depuis Philippe de Césarée en passant par la Galilée et Jéricho. Maintenant, il est entré à Jérusalem en se présentant comme leur roi et en donnant à la ville une dernière chance de l'accueillir. C'est la première fois qu'il pénètre à Jérusalem avec tant de majesté. Auparavant, d'après l'Évangile selon Jean, il serait rentré par la porte des brebis, la porte par laquelle on apportait les animaux pour les sacrifices. Mais, cette fois, il se présente en roi, et ceux qui l'accompagnent reconnaissent sa royauté. Le peuple a de nouveau l'occasion de le recevoir ou de le rejeter. Maintenant, trois groupes sociaux, les Hérodiens, les Sadducéens et les Pharisiens, cherchent à le piéger chacun leur tour. C'est ce qui se produit dans ce 22e chapitre. Les Hérodiens ont approché Jésus avec une question qui les touche de près. Les Hérodiens formaient un parti politique qui appuyait la dynastie hérodienne et qui comptait sur elle pour les délivrer des Romains. Autrement dit, ils donnaient leur appui à Hérode. Je ne pense pas que les Hérodiens fussent un parti religieux, car le parti était trop attaché à la politique. Cependant, les pharisiens devaient se servir d'eux, et certains pharisiens devaient aussi être hérodiens. Ce sont les pharisiens qui ont ouvert les hostilités. Débutons notre lecture, Matthieu chapitre 22, versets 15 à 17. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non, de payer le tribut à César? » Les Hérodiens ne cherchaient pas vraiment une réponse. Ils en avaient déjà une. Cette question était un piège. Si Jésus avait répondu non, il l'aurait accusé de trahison envers Rome, qui dominait la nation juive. Si Jésus avait répondu oui, il n'aurait pu être le Messie. Ils pensaient coincer Jésus avec cette question. Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?» Notez que Jésus les appelle par ce qu'ils sont, des hypocrites. Verset 19. « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Notez qu'il demande à voir une pièce d'argent. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé une des siennes? Bien, tout simplement, je pense qu'il n'en avait pas. Verset 20. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Ils utilisaient l'argent ayant cours légal dans l'Empire romain. Donc, ils avaient remis une pièce de monnaie romaine à Jésus. Verset 21. « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Non seulement Jésus répond-il à leurs questions, mais il leur rappelle qu'ils doivent quelque chose à César. Ils utilisaient la monnaie romaine. Ils se déplaçaient sur des routes romaines, et ils profitaient de la paix que leur assurait Rome. Donc, ils devaient quelque chose à Rome. Ils devaient rendre à César ce qui est à César. Mais Jésus leur rappelle aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Jésus n'est pas tombé dans le piège. Même s'il devait quelque chose à César, ils ne devaient pas négliger leur responsabilité envers Dieu. Les Hérodiens se retirent, et c'est au tour des Sadducéens de s'avancer au marbre. Ils vont aussi essayer de piéger Jésus. Lisons les versets 23 à 28. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, « Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. » Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils utilisent un exemple ridicule. Imaginez, une femme avec sept maris. Elle devait être une star de cinéma. Ils veulent savoir de qui elle sera la femme. Mais Jésus leur montre deux points au sujet desquels ils sont ignorants. Verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Les Sadducéens ignoraient les Écritures et ils ignoraient la puissance de Dieu. S'il n'en avait pas été ainsi, ils n'auraient pas proposé cet exemple ridicule. Verset 30. « Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Au ciel, nous serons comme des anges, et nous n'aurons pas de conjoints. Au ciel, il ne sera pas nécessaire de procréer, donc personne ne sera marié. Cela ne signifie pas qu'un couple qui s'aimait sur terre ne pourra pas être ensemble au ciel. » Versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Jésus corrige aussi leur théologie au sujet de la résurrection. Abraham existe toujours et il est au ciel. Dieu est toujours son Dieu. Abraham, Isaac et Jacob ont été transférés à un autre endroit. Ils ne sont pas morts, mais vivants. Vos êtres chers disparus vous attendent au ciel, s'ils ont reçu Christ comme leur sauveur. C'est une vérité glorieuse. Verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Maintenant, c'est au tour des pharisiens de s'avancer au bâton. Les pharisiens formaient un parti politico-religieux. Ils désiraient le rétablissement du royaume de David pour être libérés des Romains. Ils pouvaient collaborer avec les Hérodiens pour établir le royaume, mais, doctrinalement, ils s'opposaient aux Sadducéens. Les pharisiens correspondaient aux libéraux dans le christianisme d'aujourd'hui. Ils désiraient aussi piéger Jésus, donc ils envoyèrent un docteur de la loi. Versets 34 et 35. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Les pharisiens se sont consultés et ils ont envoyé un scribe très instruit, un expert de la loi mosaïque, pour affronter Jésus. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Versets 37 et 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Notez qu'il n'a pas donné un des 10 commandements particuliers. Il en ajoute un deuxième, verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous nous examinons, nous voyons que nous sommes loin du standard de Dieu. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ces deux commandements résument la loi mosaïque. Si les pharisiens avaient été honnêtes, ils auraient admis qu'ils ne suivaient pas cette loi parfaitement. Ils auraient reconnu la nécessité d'un sauveur. À ce moment-là, Christ était proche de la croix. Versets 41 à 44. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus cite le psaume 110, verset 1er. Pour répondre à cette question, il fallait reconnaître la naissance surnaturelle du Christ. C'est la seule façon que David pouvait appeler le Christ son Seigneur. Verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Seule l'incarnation peut expliquer ce fait. Christ est né d'une vierge. Il fallait que quelque chose de plus grand soit introduit dans la lignée de David, afin qu'il puisse appeler un de ses descendants Seigneur. L'évangéliste Luc nous raconte la naissance miraculeuse de Jésus. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1er, verset 35. Jésus-Christ est plus grand que David, car il est Dieu. Jésus obligeait les pharisiens à réfléchir au fait qu'il pouvait être le fils de David et le Seigneur de David. Ceci a mis fin à l'affrontement verbal entre le Christ et les pharisiens. Verset 46. Nul ne put lui répondre un mot, et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Maintenant, nous passons au chapitre 23, dans lequel Jésus avertit la foule au sujet des scribes et des pharisiens. il les maudit et pleure sur Jérusalem. C'est dans ce chapitre que se termine la confrontation entre Jésus et l'élite religieuse. Jésus dénonce les scribes et les pharisiens en termes très clairs. Il les condamne avec des paroles dures. Il est difficile de concevoir, en lisant ce chapitre, que des théologiens puissent considérer que Jésus était un homme doux, qui ne condamne personne. Jésus donne un avertissement sévère aux scribes et aux pharisiens, c'est-à-dire à l'élite religieuse. Débutons notre lecture du 23e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, versets 1 et 2. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » C'est comme aujourd'hui. Les gens se virent vers une élite religieuse pour l'interprétation des Écritures. Ici, ils ont usurpé la chair de Moïse. Poursuivons notre lecture. Versets 3 à 7. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Christ condamne l'orgueil des hommes qui aiment les titres, les positions et le fait d'être reconnu publiquement. Versets 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Un père donne la vie. Se faire appeler père en matière spirituelle, c'est prendre la place de Dieu. Lui seul a le pouvoir de faire de nous de ses enfants. De plus, c'est à Christ qu'appartient toute autorité. Versets 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Pour être le plus grand, devenez un serviteur. Versets 13 à 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Ils amenaient les gens dans leur religion et non à Dieu. Ces prosélytes n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient des fervents, des fanatiques de la religion. Poursuivons notre lecture. Versets 16 à 22. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » Les scribes et les pharisiens coupaient les cheveux en quatre. Ils mettaient l'accent sur le côté matériel plutôt que sur le but spirituel pour lequel ces choses avaient été données. Jésus les condamne sévèrement. « Chers amis, vous êtes placés devant un choix. Soit celui de la religion ou celui de Christ. La religion, c'est de compter sur nous-mêmes, nos propres capacités, nos œuvres, ce que nous pouvons accomplir, de monter les échelons de la pratique religieuse pour nous amener jusque dans la présence de Dieu. Tandis que la Bible nous parle non de religion, mais de relation. Et ce n'est pas à nous de monter, mais plutôt Dieu qui est descendu jusqu'à nous en la personne du Christ. Il n'est pas l'échelle, mais plutôt l'ascenseur qui nous conduit au Père. Nous n'avons qu'à y monter, c'est-à-dire à se placer à l'intérieur de cet ascenseur pour se laisser conduire jusqu'à l'étage supérieur appelé le ciel. Jésus est celui qui est descendu jusqu'à nous pour venir nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avez-vous remarqué ce texte? Il nous dit que c'est lui qui en est le chemin, et que c'est seulement par lui que nous pouvons nous rendre au Père. Nous devons placer toute notre confiance en Jésus seul. Il est l'ascenseur, lui seul peut nous faire monter jusque dans la présence du Père. Et en plus, le texte précise que c'est lui qui est monté pour nous préparer une place, et lorsque cette place sera prête, il reviendra nous chercher. C'est son œuvre, et uniquement son œuvre. Nous devons accepter par la foi ce que le Christ peut faire et accomplir pour moi, dans ma vie et dans mon éternité. Oui, chers amis, la vie chrétienne en est une de foi et de relation. Chers amis, pourquoi ne pas emprunter l'ascenseur qui va vous monter non seulement au bout d'un gratte-ciel, mais qui va vous rendre jusqu'au ciel à l'étage de Dieu? Et cet ascenseur est Jésus-Christ. Chers amis, pour la prochaine émission, lisons Matthieu chapitre 23, verset 23, jusqu'au chapitre 24, verset 3.
Merci beaucoup, Régent. N'est-ce pas dans notre nature humaine de chercher à être le plus grand? Ou devrais-je peut-être dire, n'est-ce pas dans notre nature pécheresse, orgueilleuse, de chercher à être le plus grand? On sait que même les apôtres cherchaient à savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus le savait. Il leur a dit que le plus grand parmi eux serait leur serviteur. Il leur a aussi dit que quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. La parole de Dieu sait vraiment nous mettre à notre place, et je remercie le Seigneur pour ça. Dernièrement, j'ai mis la main sur un tout petit livre de A. Murray, intitulé « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Puis je réalise qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre l'humilité par excellence, c'est-à-dire celle de Jésus. Hein, Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je pourrais dire que c'est très humiliant pour moi d'examiner l'humilité de Jésus, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et dans son petit livre, M. Murray dit quelque chose de bien intéressant et de très vrai quand on y réfléchit. Il dit « Croyons que quand nous serons brisés par la douleur de notre orgueil et de notre impuissance à nous en débarrasser, Jésus-Christ nous communiquera lui-même cette grâce comme une partie de sa vie merveilleuse. » Moi, je suis rendu au stage d'être brisé par la douleur de mon orgueil. Ça fait vraiment mal, mais en même temps, ça me fait du bien de savoir que le Seigneur est en train de me façonner pour m'amener à être à son image un jour. Mais il est loin d'en avoir fini avec moi. J'aime regarder l'humilité de Jésus. Sa vie sur la terre était une vie d'humilité en tout temps. Il a même dit à ses disciples qu'il était au milieu d'eux comme celui qui servait. Il s'est même humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Je me demande si je serais capable d'aller aussi loin. Heureusement, mon salut ne dépendait pas de ma mort à la croix, mais de sa mort à la croix. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 7, il est écrit que Jésus s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oh, mes amis, examinons la vie de Jésus. Il y a plusieurs modèles d'humilité parmi les gens. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus. Ce Jésus merveilleux qui a donné sa vie pour nous racheter, pour nous offrir une place au ciel, dans son royaume, pour l'éternité. Je me souviens que c'est l'orgueil qui m'a empêché d'écouter. La première fois qu'une personne est venue à moi pour me parler de l'amour de Jésus pour moi. Puis ça m'a pris une autre année d'humiliation avant que mon orgueil soit assez brisé pour que j'écoute la deuxième personne que Dieu a placée sur mon chemin. Alors l'humilité précède la gloire. Imagine, Dieu veut nous donner une gloire. Il dit que l'humilité précède la gloire. Mais il faut être vraiment humble. Pas juste sembler l'être ou agir, faire l'humble, mais être humble. Et je pense qu'en examinant la vie de Jésus, on a vraiment un modèle à suivre. Alors moi, j'aimerais bien qu'à chaque jour, je puisse me rappeler que je dois regarder dans la parole et voir l'humilité de Jésus et chercher et lui demander même de me la donner. Lui dire, Seigneur, aide-moi à être comme toi. Aide-moi à t'imiter, Seigneur. Aide-moi à être doux et humble de cœur.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly. Bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.